excellente journée. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Monde aujourd'hui en direct de Washington au micro Nanit Talani. Voici les principaux titres que nous allons développer ce mercredi 17 janvier 2024. Gros plan sur la CAN 2023 qui continue de battre son plein en Côte d'Ivoire. Nous vivrons aussi l'ambiance des femmes dans le marché d'Adiamé à Abidjan, loin de l'effervescence du football. Les États-Unis promettent de soutenir la diplomatie régionale pour mettre fin au conflit en RDC. Aux Comores, le président sortant Azali Assoumani remporte la présidentielle de dimanche. La justice européenne reconnaît le statut de réfugié aux femmes victimes de violences conjugales. Dans la deuxième partie de notre journal, nous irons à la découverte du marché bio de Libreville au Gabon que les agriculteurs animent depuis près d'une décennie. Mais en attendant, voici le journal. Commençons cette session d'information par le journal de la CAN. Les Aigles du Mali ont réussi leur début hier en disposant des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud 2-0 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Yakuba Ouedraogo et Bagassi Koura.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal de la CAN préparé par Yakuba Ouedraogo et moi-même Bagassi Koura. Ce mercredi se joue les derniers matchs de la première journée de cette CAN 2023 et c'est le groupe F qui boucle les joutes de ce premier acte au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Léopards de la RDC qui retrouvent la compétition font face au Chipolopolo de la Zambie à 20h temps universel. Mais bien avant, la Tanzanie défie les demi-finalistes mondiaux marocains. Le sélectionneur du Maroc, dont les poulains sont arrivés très tôt à San Pedro pour s'acclimater, dit compter sur une bonne préparation pour réussir son entrée dans le tournoi.
Ce qu'on a pu conclure, c'est qu'en effet, la chaleur et l'humidité, surtout, jouent un rôle primordial. Alors c'est sûr que derrière son écran, ou peut-être de la tribune, on ne s'en rend pas compte, mais pour les joueurs, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc sur le style de jeu aussi, ça va demander à être très intelligent dans la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup d'expérience aussi, beaucoup aussi de rotation de par les changements. L'avantage, c'est qu'on a droit à 5 changements aujourd'hui. Il y a l'évolution du football qui nous permet. On a un bon banc qui peut nous permettre ou de gagner le match ou de nous permettre de garder le résultat.
Walid Regragui, coach du Maroc, est en face. Regragui aura affaire au sélectionneur algérien de la Tanzanie, Adil Amourouche.
On est réaliste et on va essayer de donner un bon match pour les spectateurs qui vont être là nombreux. On sait avec qui on va jouer et on sait que c'est quoi notre objectif. Donc certainement, ce sera un match très très important pour l'expérience de nos joueurs.
Adil Amourouche, sélectionneur de la Tanzanie, des propos recueillis par notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk. Hier, dans le groupe D, la Namibie a fait sensation en venant à bout de la Tunisie 1-0. Le Burkina Faso a pris la tête de la poule D grâce à sa victoire in extremis 1-0 face à la Mauritanie. À Bouaké, Bertrand Traoré, le capitaine de cette équipe, a provoqué et transformé un pénalty dans les dernières minutes de la rencontre.
Ça fait plaisir de bien débuter cette compétition. C'était notre objectif. Maintenant, on a les 3 points et on va bien se reposer, bien se préparer pour le prochain match. C'est pas un handicap. On a une CAN. On sait les difficultés. On connaît les adversaires. Et il n'y a pas de petite équipe. Et je pense que jouer à 14h, c'est les deux équipes qui jouent à 14h. On n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est comme ça, même si c'est un peu difficile. De maintenir la même intensité pendant les 90 minutes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une compétition, on est des compétiteurs, on se prépare pour répondre présent.
C'était Bertrand Traoré au micro de Kader Traoré, notre envoyé spécial à Bouaké. Loin de cette ambiance de joie autour du ballon rond dans le marché d'Adjamé, commune populaire d'Abidjan, certaines femmes vaquent tranquillement à leurs occupations. Le foot, elles n'y pensent pas trop.
Aïcha Diomandé, elle n'a pas été au stade, elle va nous expliquer pourquoi.
C'est à cause des maillots, on a besoin de maillots pour aller.
C'est parce que tu n'as pas de maillot que tu n'es pas allé au stade?
Parce qu'il n'y a pas le maillot pour partir au stade, parce que c'est trop cher.
Merci beaucoup, Aïcha Diomandé. Juste à côté d'elle, on a notre maman. Bonjour maman.
Bonjour.
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Amani Aya.
Amani Aya, est-ce que vous étiez au stade à l'ouverture de la CAN 2023?
Non, je n'ai pas parti aussi parce que moi aussi, je n'ai pas de moyens.
Vous n'avez pas l'argent pour payer le ticket?
Oui, je n'ai pas l'argent pour payer le ticket, je n'ai pas l'argent pour payer maillot aussi. Voilà. Moi-même, ici, là, même, il y a les problèmes. Moi-même, je dors au dehors. Aïe, mon enfant, je dors à la gare. Moi-même, où je suis là, je ne sais même pas comment je fais. Donc, je n'ai même pas de moyens, je n'ai même pas quelque chose. Même des fois, même manger, même c'est difficile pour moi. D'autres problèmes, ça dépasse les ballons.
On a Amouin qui est là. Alors, Amouin?
Bon, on n'a pas les moyens pour payer les tricots de Côte d'Ivoire. Bon, si tu n'as pas les moyens, nous, on se débrouille un peu pour s'occuper de nos enfants. Tu ne peux pas prendre ce petit argent-là pour mettre dans chose, tricot. On te dit 15 000, 20 000, 35 000. Donc, on n'a pas les moyens.
Donc, c'est comme si vous ne vous sentez pas concerné par cette canne-là?
Bon, on se sent concerné, mais plus qu'on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment on fait.
Voilà, ainsi va le foot, ainsi va la vie au bord de la lagune Ébrier. C'est la fin de ce journal de la CAN. Merci à vous de l'avoir suivi. Bagassi Koura, Yakuba Ouédraogo, Abidjan pour VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken salue les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la République démocratique du Congo après une flambée de violence. Les précisions avec Jacques Aristide.
Washington soutiendra la diplomatie régionale pour mettre un terme au conflit dans la région, a promis le patron de la diplomatie américaine lors d'une rencontre hier avec le chef de l'État rwandais en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les efforts engagés, notamment par l'Angola et le Kenya, afin de favoriser une résolution pacifique des différends et d'éviter un conflit dans l'Est de la RDC, a déclaré Anthony Blinken à Paul Kagame au début de leur réunion. Nous apprécions beaucoup le travail accompli, en particulier au cours des deux derniers mois, ainsi que votre leadership dans la recherche d'avancées positives et pacifiques, encore dit Anthony Blinken. La rencontre souligne à nouveau l'espoir des États-Unis de gérer le conflit en travaillant avec le président Kagame, qui a fait l'objet de critiques américaines par le passé. Avril Haines, la responsable du renseignement américain, a indiqué en novembre dernier, après un voyage dans les deux pays, que Paul Kagame et Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais, s'étaient accordés sur des étapes de désescalade. Hier, l'armée rwandaise a déclaré avoir tué un soldat congolais et arrêté deux autres qui ont, selon elle, franchi la frontière entre les deux pays et ouvert le feu.
Le président sortant comorien Azali Assoumani a été désigné mardi vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche. La commission électorale le créditant de 62,97% des voix. L'opposition, elle, dénonce des fraudes. Le point avec Lulem Galima.
Après l'annonce de sa victoire avec la CENI, le chef de l'État sortant a appelé les 5 candidats de l'opposition à suivre les voies légales et faire preuve de fair play. Vous avez fait preuve d'une grande maturité politique, a-t-il poursuivi, remerciant ses électeurs de la responsabilité énorme qui lui est à nouveau confiée. L'opposition, qui a affirmé avoir constaté de nombreuses irrégularités le jour du vote, a dénoncé des fraudes. Ce sont des candidats de l'opposition qui sont arrivés en tête des suffrages exprimés, malgré le bourrage des urnes, les fraudes et les intimidations de la part du régime, ont déclaré dans un communiqué commun les 5 candidats opposés au chef d'État sortant avant l'annonce des résultats. Le président réélu, Azali Assoumani, 65 ans, va ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif qui doit le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Ces résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour suprême, plus haute juridiction du pays composée des îles Grande Comore, Anjouan et Moélie.
Les combats ont gagné des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au Soudan où deux généraux s'affrontent depuis 9 mois. C'est ce que rapporte l'ONG RNCR, tirant la sonnette d'alarme pour les vestiges du royaume de Kouch, vieux de plus de 2300 ans. L'ONG dit condamner fermement l'incursion des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo sur les sites de Naka et de Moussawarat, El Soufra, dans l'état du Nil, dans le nord du pays. Cette seconde incursion a eu lieu dimanche, affirme l'ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine a mené hier des frappes au Yémen visant 4 missiles des rebelles houthis. Selon un responsable américain, la cible représentait une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine. Le point avec Eric Manirakiza.
Ces 4 missiles balistiques antinavires des Houthis étaient prêts à être lancés depuis des zones du Yémen contrôlées par les Houthis, a précisé sur X le commandement militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM. Il s'agit de la 3e opération menée en moins d'une semaine par les États-Unis contre les Houthis qui prennent pour cible des navires au large du Yémen en solidarité, selon eux, avec les Palestiniens de Gaza, territoire pilonné assiégé par Israël, soutenu, lui, par Washington. La semaine dernière, des frappes américano-britanniques ont ciblé près de 30 sites au Yémen avec plus de 150 munitions. Les forces américaines ont également attaqué des radars et des infrastructures de drones de missiles dans une opération présentée comme le prolongement des frappes précédentes. Les intérêts américains sont parallèlement la cible d'attaques en Irak et en Syrie menées, selon Washington, par des groupes armés liés à l'Iran. Le mois dernier, les États-Unis ont mis en place une force navale multinationale pour protéger les navires de la mer Rouge, une voie de transit essentielle qui représente jusqu'à 12% du commerce mondial.
En Europe, les femmes victimes de violences conjugales peuvent désormais bénéficier du statut de réfugié ou d'autres formes de protection internationale, a statué la Cour de justice de l'Union européenne. Plus de détails avec Claire Bourré-Gibourg.
La Cour a rendu son arrêt public hier à Luxembourg. Les femmes peuvent prétendre au statut de réfugiées si, dans leur pays d'origine, elles sont exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques. Dans le cas où les conditions d'octroi ne seraient pas remplies, elles peuvent se réclamer d'un statut de protection subsidiaire, notamment si elles courent un risque réel d'être tuées ou de subir des violences en raison de la transgression supposée des normes culturelles, religieuses ou traditionnelles, a ajouté la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour avait été saisie par la justice bulgare à la suite de la requête d'une ressortissante turque d'origine kurde. Affirmant avoir été mariée de force par sa famille, battue et menacée par son époux, elle a introduit une demande de protection internationale en Bulgarie par peur de rentrer en Turquie. Fin novembre, la Journée internationale contre les violences faites aux femmes a été l'occasion de nombreuses manifestations dans le monde réclamant une meilleure efficacité des États face à ce fléau.
La population chinoise a chuté pour la 2e année consécutive en 2023, soit 0,15%. Elle a diminué de 2,08 millions, soulevant des inquiétudes sur le potentiel de croissance de l'économie à long terme. Cette baisse est principalement tributaire en raison de la politique de l'enfant unique mise en œuvre de 1980 à 2015 et de l'urbanisation rapide. Les coûts élevés de garde d'enfants et d'éducation dissuadent aussi de nombreux couples chinois d'avoir des enfants, tandis que l'incertitude sur le marché du travail décourage les femmes de suspendre leur carrière. Selon l'ONU, la population chinoise diminuera de 109 millions d'ici 2050. Les Philippines interdisent les importations d'oiseaux domestiques et sauvages, y compris la viande de volaille et les œufs en provenance de Californie et de l'Ohio aux États-Unis, en raison de plusieurs foyers de grippe aviaire hautement pathogène. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministère philippin de l'Agriculture.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours en votre compagnie pour notre partie magazine. Au Togo, le mandat de l'Assemblée nationale a pris fin au 31 décembre 2023 sans que l'institution ne soit renouvelée par des élections législatives. Pour les partis de l'opposition, cette situation a des incidences sur la vie politique du pays, notamment la légitimité et la légalité du gouvernement actuel, et appelle à des discussions avec le pouvoir. Selon le gouvernement, une disposition de la Constitution permet à l'Assemblée nationale sortante de poursuivre sa mission, de nommer notre correspondant Kossi Wusu.
Le 31 décembre 2023, les députés élus en 2018 étaient arrivés au terme de leur mandat de 5 ans. L'élection législative qui devrait se tenir un mois avant la fin de la législature et permettre le renouvellement de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. Gérard Adja de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, estime que le gouvernement actuel qui tient sa légitimité de cette Assemblée qui a fini son mandat doit rendre le tablier.
La majorité n'est donnée que par l'Assemblée nationale. Jusqu'au 31 décembre 2023, c'est Wini qui dit avoir la majorité à l'Assemblée. Et donc, on peut nommer le gouvernement dans Wini. On ne s'oppose pas. Mais à partir du moment où le 31 décembre, le mandat de l'Assemblée est terminé, aucun parti n'a plus de majorité à l'Assemblée. Alors où nous sommes. Donc, on ne peut pas continuer à dire que Wini va continuer à diriger le pays. Ce n'est plus possible. Et donc, du coup, il ne doit plus y avoir un gouvernement lié à un parti politique.
Intervenant sur le sujet à l'issue d'un conseil des ministres, Yawa Kuigan, la porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation prévaut et de surcroît, des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 52, existent pour s'en enfranchir.
C'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau dans cela et il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter que quelque chose qui est déjà arrivé et pour lequel le Togo a trouvé les solutions pour que la vie institutionnelle se poursuive de façon harmonieuse se produit encore une fois. Disons-nous que nous en avons déjà les ressources. Et la bonne nouvelle à ce chapitre, c'est que l'article 52 de la Constitution de notre pays a pris des dispositions qui font que nous n'aurons jamais de vide.
Éric Dupuis de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, dénonce la lecture biaisée de l'article 52 de la Constitution et fustige la fuite en avant du gouvernement.
Mais ce n'est pas parce que on a mal fait une fois, deux fois, trois fois que cela doit devenir une habitude. Si on regarde la Constitution et si on regarde le code électoral, l'Assemblée nationale n'existe plus. Donc la majorité parlementaire n'existant plus, est-ce que le gouvernement reste encore fondé sur quelle base?
Pour Dodi Apevon des FDR, Force démocratique pour la République, une assise de l'ensemble de la classe politique du pays est impérative.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque les élections ne sont pas faites au moment où l'Assemblée a fini son mandat, oui, il a nécessité que la classe politique se retrouve avec ceux qui nous gouvernent et pour réfléchir à ce qu'on doit faire.
Le gouvernement avait annoncé que les élections législatives et régional se tiendrait avant la fin du premier trimestre de cette année. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le Bénin vient de marquer une étape importante dans la lutte contre le paludisme. Les autorités ont réceptionné lundi soir plus de 200 doses du vaccin antipaludique RTS-S. Il est destiné aux enfants de 0 à 2 ans qui sont les plus exposés aux cas graves de paludisme au Bénin. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
Au total, 215 900 doses de vaccin antipaludique RTS-S recommandées par l'OMS et achetées par l'UNICEF avec le soutien de Gavi ont été acheminées à Cotonou dans la soirée du lundi. Il s'agit d'une phase importante vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants de 0 à 2 ans en Afrique. Le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies, Salvatore Niyozima, a souligné l'importance cruciale de l'arrivée des vaccins au Bénin.
La réception
distribution des toutes premières doses de vaccins antipaludiques au pays de Béhanzin et de Bioguera est historique. Imaginez donc, depuis des siècles, le paludisme a décimé les populations des zones infestées en Afrique et ailleurs dans le monde. Et il s'est montré particulièrement meurtrier chez nos tout-petits, les enfants de moins de 5 ans. Ici au Bénin, le paludisme est la première cause de mortalité chez les enfants au niveau national. Selon les données de l'OMS concernant l'année 2020, plus de 4,7 millions de cas de paludisme et 10 000 décès ont été signalés principalement chez les enfants de moins de 5 ans. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie.
De son côté, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a exprimé sa joie tout en invitant les populations à faire preuve de volonté lors de la campagne de vaccination contre le paludisme. Benjamin Rumpati.
L'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination est une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie au Bénin. En effet, l'administration du vaccin antipaludique dans les localités à grandes endémicités permettra non seulement de contrôler la maladie, mais surtout de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année, en particulier pour nos enfants. Le traitement préventif intermittent des femmes enceintes, le recours aux antipaludiques, le tout adossé à la nouvelle politique de santé communautaire, va contribuer à réduire significativement les décès liés au paludisme.
Le Bénin est le quatrième pays à recevoir des doses de vaccins RTS,S après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, marquant ainsi la fin de la phase pilote de la vaccination antipaludique. Cette livraison permettra au Bénin de commencer l'administration du vaccin aux enfants par l'intermédiaire du programme élargi de vaccination, a déclaré Dr. Faustin Yao, spécialiste vaccination au bureau UNICEF.
Au Bénin, le schéma qui a été adopté est un schéma à 4 doses. La première dose est à 6 mois, la deuxième dose est à 7 mois, la troisième dose est à 9 mois et la dernière, donc la quatrième dose, à 18 mois.
Il faudra suffisamment sensibiliser les parents pour la réussite de cette campagne de vaccination contre le paludisme, car au Bénin, de nombreux parents voient dans les campagnes de vaccination des moyens de réduction de la population africaine. La réticence envers le vaccin contre le coronavirus et le refus de certains parents à vacciner les enfants de moins de 5 ans en sont les preuves. De Cotonou, Ginette Le Adané pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Gabon, consommer bio est une préoccupation de plusieurs ménages de Libreville et de ses environs. La santé passe aussi par l'assiette, voilà qui nous plonge au cœur d'un projet de la communauté rurale du Cap Estérias. Dans cette bourgade du nord de Libreville, les paysans tiennent depuis près de 20 ans un marché bio. Ils cultivent les produits locaux selon les principes les plus respectueux de la nature. Au cœur du marché bio du Cap Estérias, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Situé sur la route du Cap Estérias, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, le marché bio, encore appelé le marché de la joie, diffère des autres points de vente du nord de la capitale gabonaise. Ces abris n'ont pour toiture qu'une canopée formée par la strate supérieure de la forêt.
C'est un marché que nous avons créé nous-mêmes. Et ce marché permet à tout le monde d'avoir les choses bio par rapport à Libreville.
Au marché de la joie, les produits de la récolte ne parcourent pas de longues distances avant d'arriver sur les étals. Ce matin, Ida, l'une des commerçants du site, fait le point de sa marchandise.
Petites aubergines, ça manque parce que on estime que nous ne sommes pas en période de récolter ces aubergines. Bon, en ce moment, ce qui abonde ici, c'est par contre les moyens aubergines là, l'oseille et d'autres choses comme le maïs, comme vous pouvez le constater.
Cependant, produire l'alimentation bio en quantité pour satisfaire la demande locale exige plus de main-d'œuvre, comme nous l'explique Patrick Bonga, fondateur du marché bio du Cap Estérias.
Je suis à 51 personnes, des commerçants ici, Ghanéens et Gabonais. Et 50 Gabonais qui font le vannepam, diplômés de leurs états, mais ils sont obligés de faire le vannepam comme moi-même.
Dans les années 1980, cette zone était destinée à être une zone protégée.
Mais les populations de Bolokoboué et du Cap Esterias ont demandé et obtenu des autorités municipales de la préserver. Pour Boris, un autre visiteur du site, une balade sous les bois permet de réaliser combien il est important à l'homme de préserver son environnement.
Et maintenant, il faut l'améliorer parce que c'est vrai que c'est sous les arbres, mais justement, c'est pas encore ce qu'il faut. Parce qu'il y a encore des bâches, des choses comme ça. Il faut peut-être mettre des écorces autour de ça pour rendre un peu l'environnement beaucoup plus beau, quoi.
Joëlla, 12 ans, arrive ici pour la première fois avec ses parents et découvre un marché tout simplement convivial.
Je suis venue avec mes parents. Je trouve ici cet endroit où là, la forêt, le bon air, c'est trop joli, en fait. Trop bien.
D'après les spécialistes, en choisissant des produits biologiques, les consommateurs participent à la promotion d'un système agricole moins polluant et plus respectueux de l'environnement, c'est la vocation de ce marché hors du commun à Libreville. Ismaël Obionzé, de retour du Cap Esterias au nord de Libreville, pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a écrasé lundi soir dans l'Iowa la première des primaires républicaines, confirmant son emprise sur le parti. Avec cette victoire, Donald Trump a fait un grand pas vers un nouveau duel avec Joe Biden lors de la présidentielle de novembre. Il est clairement le favori de l'autre camp, a réagi l'actuel président démocrate sur son compte X. Que signifie cette victoire de Donald Trump? John Lindon a posé la question à René Lake, journaliste et analyste politique basé ici même à Washington.
Écoutez, John, c'est une confirmation par les urnes, en tout cas au moins les urnes des primaires républicaines, que Donald Trump est un candidat sérieux, qu'il est effectivement le runner, comme on dit en anglais. En clair, il confirme son statut de favori, de grand favori, parce que c'est une victoire importante, très large. Alors, John, je veux juste vous dire que ce qui, moi, en tout cas, m'a un peu surpris, c'est la question du genre. Comment se répartissait? Parce que ça, c'est une question que je voulais regarder avec beaucoup d'attention. Si Donald Trump aurait beaucoup de votes de femmes républicaines, et il se trouve qu'il a même un pourcentage de plus. Il a 50% des votants qui étaient femmes qui ont voté pour lui et 49% des hommes. Donc, avec tout le débat sur la question de l'avortement, etc., en tout cas, au sein des républicains, ça ne semble pas être un problème pour lui.
Et pour les démocrates, cette victoire, qu'est-ce qu'elle signifie?
Ben écoutez, elle signifie qu'on va certainement avoir Donald Trump comme candidat qui s'opposera à un démocrate. Donc j'imagine que les démocrates eux-mêmes s'y préparent depuis longtemps, puisque au fond le vote d'hier n'est qu'une confirmation des sondages que l'on a depuis pratiquement un an.
Chez les démocrates, Biden, c'est le candidat favori?
Écoutez, on ne sait pas. Il semblerait que ce soit ça le plus probable. Comme vous savez, bon, au sein des démocrates, il y a des voix que l'on entend ici et là qui semblent penser que ce n'est peut-être pas une bonne idée du fait de son âge, du fait un peu de sa condition physique. Mais je ne vois pas trop quelle serait l'alternative, en tout cas à si court terme. Donc il me semble que oui, on va certainement vers un remake de 2020.
Qu'est-ce qui peut freiner Donald Trump à ce stade?
Ah, écoutez, je ne sais pas, parce que même les problèmes judiciaires qu'il a, les nombreux problèmes judiciaires qu'il a, ne semblent pas avoir un impact sur son niveau de popularité, en tout cas au niveau de sa base. Est-ce que cela va avoir un impact au niveau des indépendants dans le cadre d'une élection générale? Je pense que oui, mais même cela, ce n'est pas encore certain. Donc il va falloir attendre, mais apparemment, je ne vois pas trop ce qui peut le freiner. Je crois que le pays, l'Amérique est profondément divisée et qu'il y a une division idéologique, philosophique qui est très profonde et qui n'est pas liée, j'ai presque envie de dire, aux intempéries politiques du moment.
Après l'Iowa, la prochaine étape sur la route des primaires, c'est le New Hampshire. Que peuvent les autres candidats, notamment Nikki Haley?
Mais écoutez, Nikki Haley, ça va être intéressant pour elle parce qu'elle peut même gagner, en fait, le New Hampshire. Elle pourrait créer une sorte de surprise, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle pourrait tout à fait gagner New Hampshire et que Trump arrive deuxième ou troisième même après DeSantis. Si cela arrivait, c'est sûr que ça redonnerait un peu de vigueur à la campagne de Nikki Haley. Ça la positionnerait pour être un peu la numéro 2, voire éventuellement une possible candidate pour la vice-présidence dans un ticket avec Donald Trump.
la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à Lionel Gaïma pour la mise en onde avec l'assistance de Kelvin Fowler. Nanik Talani était à la présentation, etc.